bio ne s'est jamais aussi bien porté. Il est même en train de se démocratiser. Mais comment distinguer le beau bio du bobard, autrement dit du faux bio? Le bio est-il réellement meilleur pour celui qui en mange et celui qui le produit? Appelez-nous sans pesticides au 01 45 24 7000 sur le site internet de France Inter, franceinter.fr et sur les réseaux sociaux. Nous sommes Service Public FI. Le bio est devenu un idéal en matière d'alimentation. 61% des Français en consomment plus ou moins régulièrement. Probablement seraient-ils plus nombreux encore si les prix diminuaient. Pour autant, tout est-il beau dans le bio? Allons faire un tour dans les rayons.
Chantal, tu vas être contente, on a trouvé de super occasions.
Avec toi, je méfie. Vous n'avez pas oublié le poisson pour ce soir?
Non, on a même pris du poisson de la mer, mais des dépannés.
Super, 30% de poisson et plein de graisse animale.
Mais pour demain soir, de succulents nuggets de poulet.
Encore super, de la viande reconstituée maintenue par des stabilisateurs et qui contient deux fois plus de matière grasse qu'un hamburger.
Assez ! Il est plus que temps d'accueillir le bio dans nos assiettes.
Et tout est bon dans le pochon, vous l'entendrez dans une cinquantaine de minutes refaire le monde. En attendant, faut-il manger bio ? Une question que tout le monde se pose.
Pierrot, ça franchement ça va, c'est bon.
Si t'as envie de te boucher les artères, tu fais ce que tu veux, mais moi je veux pas de ça chez moi. Tu le bois avant, mais pas devant les enfants.
Et ça c'est pas mal ça, pourquoi on n'a pas le temps?
Mais on a le temps, on est en vacances. Vous avez aucun respect pour votre corps. C'est pas du poulet ça, c'est le dents en batterie, ça, c'est bourré d'antibiotiques.
Ouais, enfin, non, c'est moins cher.
Ah bah oui, manger bio, ça coûte plus cher. Au moins, t'es pas malade. Hein, puis ça t'évite d'engraisser les labos pharmaceutiques.
Service public. Guillaume Erner.
Alors, beau bio ou pas beau bio? Pour répondre à cette question, je suis en compagnie de Gilles Rivière-Weckstein. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes rédacteur de la lettre Agriculture et Environnement, auteur de Bio, Fausses promesses et vrai marketing aux éditions Le Publieur et co-auteur avec Marc Dufumier et Thierry Doré d'Agriculture biologique, Espoir ou Chimère aux éditions Le Muscadier. Nous sommes également en ligne avec Franck Bardet. Bonjour. Franck Bardet, vous êtes responsable des filières animales chez Biocoop. Notre reporter Thomas Chauvineau, bonjour Thomas.
Bonjour Guillaume.
Vous êtes allé faire tester du bio, on vous entendra tout à l'heure dans ce test. Et puis enfin Claude-Marie Vadreau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste à Politis, vous êtes l'auteur du bio, le vrai du faux chez Delachaux et Niestlé. Delachaux et Niestlé, non pas Delachaux et Nestlé, hein. Comme ça on vous accusera pas effectivement d'avoir un conflit de compétences. Comment peut-on définir le bio, Claude-Marie Vadreau?
Le bio, c'est pas une religion, hein, comme certains le
pensent. Vous êtes athée, donc.
Oui, absolument. J'ai écouté votre émission récente. Le bio, c'est une alimentation dont les éléments ont été cultivés, élevés, préparés, sans recours à des produits chimiques de synthèse. Donc on ne les retrouve pas dans cette alimentation. Il n'y a pas non plus, si on les prépare, s'agissant de viande, le plat préparé, de colorants, de renforçateurs de goût, d'antioxydants, d'arômes artificiels, etc. Voilà ce que c'est que le bio, c'est une nourriture toute simple à laquelle chacun peut accéder.
Le bio a une histoire, vous la racontez d'ailleurs Claude-Marie Vadreau dans votre livre « Bio, le vrai du faux », une histoire qui évidemment commence avec l'invention des engrais qui ont été inventés par un certain monsieur Liebig qui était également dans le bouillon et tout ça, ça se déroulait à la fin du 19e.
Effectivement, Liebig et d'autres ont inventé l'agriculture chimique. Ils ont estimé que la France ne pouvait plus, et le reste du monde, ne pouvait pas faire survivre son agriculture sans produits chimiques. Donc ces produits chimiques se sont développés. D'ailleurs, parallèlement, on remarque que les produits chimiques agricoles se sont développés souvent dans des usines liées au conflit, puisqu'on produit du nitrate à la fois pour des explosifs et pour l'agriculture. Donc cette agriculture chimique s'est développée et dans les années 20, des médecins ont été les premiers à dire « mais peut-être qu'il n'est pas nécessaire d'ingurgiter tous ces produits ». Ils ont commencé à inventer le mot bio. Ce sont les médecins. Sont venus des théoriciens agricoles, aussi bien en Allemagne qu'en France et même aux États-Unis, qui ont rationalisé un autre type de culture sans ces produits. Bon, ils criaient un peu dans le désert, hein. Ils étaient minoritaires à une époque où il fallait être moderne et utiliser des produits chimiques, hein. Y a pas... Et peu à peu, cette bio est restée confinée à des milieux que je qualifierais de, on va dire, conservateurs, pour être gentil, en Vendée notamment.
C'est ça qui est étonnant, c'est qu'effectivement, lorsqu'on lit cette histoire du bio, lorsqu'on la découvre, Gilles Rivière, on se rend compte, par exemple, que le régime du maréchal Pétain a eu un rôle dans la progression de l'agriculture biologique.
Oh, un rôle dans la progression, je ne dirais pas, mais disons que l'idée, le mode opérantiste de l'agriculture biologique s'est plus ou moins développé, a été façonné autour d'idées, si vous voulez, qu'on peut appeler le courant agraire et qui a perduré après la guerre. Hein, parce qu'en France, comme en Angleterre, les mouvements qui ont porté l'agriculture biologique à l'époque, c'était quand même des mouvements très poujadistes, des mouvements qui se définissaient comme effectivement antimoderniste, comme anticapitaliste, qui préférait l'artisanat à l'industrie, qui était dans l'idée que la nature, c'est l'opposition nature-culture. Donc vous aviez tout ça dans les années, jusqu'à la fin des années 60, début des années 70. Et c'est après que finalement ce message, qui à peu près n'a pas trop changé, a été porté par une gauche qui s'est inscrite comme une gauche un petit peu dans la tradition de Jacques Ellul, donc mettant une critique à la technique, si vous voulez.
Claude-Marie Vadreau.
Oui, les pratiquants du bio, les agriculteurs et les consommateurs, hein, dans les années 60, ont effectivement commencé à jeter tout cet ésotérisme, toute cette référence à la nature, la terre qui ne ment pas, et ils ont transformé l'utilisation du bio. Et c'est à ce moment-là, même s'ils ont encore eu des difficultés, que le bio est sorti de sa marginalité, de sa confidentialité, même s'il y a eu encore beaucoup d'années à parcourir pour le faire arriver à l'état que vous évoquiez tout à l'heure.
Et la référence à Jacques Ellul, qui était donc un philosophe plutôt sceptique à l'égard de la technique, non pas qu'il soit rétrograde, mais il considérait que la technique n'était pas en soi un progrès. Et Claude-Marie Vadreau, est-ce que pour vous, c'est une référence pertinente ?
Bien sûr, avec d'autres, mais car effectivement, le bio, ça n'est pas le refus de la technique, c'est au contraire l'utilisation en agriculture, de techniques beaucoup plus fines, beaucoup plus intelligentes, beaucoup plus étudiées.
Thomas Chauvineau.
Mais si je vous comprends bien, ça veut dire que le bio, au départ, est conservateur, si on peut dire ça comme ça, sans jeu de mots.
Il était conservateur au nom du retour à la terre. Il n'y a pas de mystère, c'était porté par les chemises vertes, qui étaient les agriculteurs fascistes des années 30. Oui, c'est ça, et ça a mené au pétinisme, comme on l'a dit. D'ailleurs, les jardins ouvriers, c'était aussi très conservateur, hein. Donc, ce mouvement, celui des jardins ouvriers, qui est lié finalement à l'évolution du bio, et le bio ont été transformés, transcendés dans les années 60, même si dans les salons comme Marjolaine, où on expose le bio, au début des années 70, on voyait encore pas mal d'ésotérisme.
Alors aujourd'hui, le bio, évidemment, est tout autre chose qu'un îlot conservateur dans un océan de progrès. C'est au contraire un secteur en plein développement. C'est un secteur également dans lequel il y a tellement de choses aujourd'hui qu'on peut s'y perdre. Quels sont les labels bio aujourd'hui, Claude-Marie Vadreau, et comment s'y retrouver dans ce maquis ?
C'est pas compliqué. Il y a un modèle français de label AB, pour agriculture biologique, qui est complété ou doublé par un label européen, des petites étoiles sur une feuille. Il n'en existe pas d'autre reconnu officiellement. Donc, il n'y a pas d'erreur possible.
Donc, quand on voit AB sur un produit, on est sûr d'avoir affaire à du bio.
Absolument. Et ça a été contrôlé.
Gilles Rivière.
Oui, sur le marché du bio, j'aimerais quand même juste préciser, parce qu'on parle beaucoup du marché du bio, la progression du marché du bio. Le marché du bio aujourd'hui, c'est environ 4 milliards d'euros. Certes, il y a eu une forte progression, mais simplement 4 milliards de chiffre d'affaires, c'est le chiffre d'affaires de McDonald's aussi. C'est la moitié du chiffre d'affaires de la viande halal en France. C'est un dixième du marché de la fast-food, ce qu'on appelle la fast-food. Donc, ça reste au niveau de la consommation marginale et au niveau de la production, Lors du Grenelle de l'environnement, on était à 1,9% de surface cultivée en bio. Après tous les efforts qui ont été mis aujourd'hui, on est passé à environ 3,2. Donc la progression, on peut dire jusqu'à 3,5 si on prend ce qui est en cours de conversion. Donc la progression a été quand même très faible par rapport à tout le reste. Il y a quand même jusqu'à présent, jusqu'encore aujourd'hui, 97 ou 96% de tout ce que nous mangeons n'est pas issu de l'agriculture biologique. Alors, donc certes, ça marche en progression, mais bon...
Claude-Marie Vadreau, dans votre livre, justement, vous rappelez la manière dont les individus achètent du bio aujourd'hui en France. En fait, on n'achète pas forcément toute son alimentation en bio. D'abord, ça coûterait trop cher. Il y a des produits sur lesquels le bio a du succès.
Oui, les produits laitiers, les fruits et les légumes. Mais malgré tout, d'abord, on n'achète pas que ce qui est produit en France. Il y a aussi le reste de l'Europe. Mais en France, malgré tout, le bio couvre actuellement 5% en 2013, 5% de la surface agricole utile. C'est 1 million d'hectares. C'est quand même quelque chose qui s'accroît, qui se développe. C'est vraiment quelque chose qui s'est développé en dépit des efforts de l'agriculture intensive, de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, etc., etc., que soutient parfois M. Rivière.
Et le bio, ça marche bien chez Biocoop, Franck Bardet ?
Oui.
Ça veut dire que chez vous, on trouve donc tous les produits, avec évidemment une question. Le bio est plus cher que les produits traditionnels liés donc à l'industrie agroalimentaire classique. À combien peut-on aujourd'hui évaluer le surcoût du bio pour le consommateur dans un magasin ?
Selon les produits, on peut être sur des différences qui vont de 10 à 50%. On remarque aussi que dans certaines périodes propices de saison notamment, on peut quand même trouver des fruits et légumes qui ne sont pas plus chers, parce que tout ça est régi par des systèmes qui sont différents. Quand on compare du bio avec du conventionnel, on compare un prix que l'on connaît, que l'on arrive à estimer, qui est celui du produit bio. On a beaucoup plus de mal à savoir quel est exactement le juste prix d'un produit conventionnel. Donc c'est vrai qu'on est souvent taxé d'être très cher, et ce qui est une réalité. La bio, comme ça a été rappelé, était sur des petits volumes, donc des petits volumes en production, pas beaucoup d'économies d'échelle à ce niveau-là, des charges énormes, notamment au niveau du transport, pour assurer une distribution, une surface de contact la plus importante avec les consommateurs, et ça, c'est quand même des choses qui sont les premiers éléments qui font qu'à l'arrivée, le produit est cher. On part aussi d'un produit qui coûte plus cher en production parce qu'il est notamment plus demandeur de main-d'œuvre. Et comme je viens de le dire, sur les effets de volume, on a peu de possibilités d'économie d'échelle.
Et chez Biocoop, il y a également des astuces pour essayer donc de diminuer les coûts. Par exemple, chez vous, on peut acheter des produits en vrac.
Oui, alors je dirais qu'au lieu d'astuces, c'est une réflexion pour essayer de diminuer au maximum les charges. Et c'est vrai que quand on constate les écarts de prix que l'on peut faire à proposer aux consommateurs donc sur des produits en vrac, c'est quelque chose de vraiment très intéressant. En même temps, ça responsabilise aussi la personne qui devient un consommateur, qui prend en charge une partie de son achat en gérant justement cette possibilité d'acheter en vrac. Et à côté de ça, ça évite tout un gaspillage de produits qui sont issus de l'industrie pétrochimique, notamment au niveau des emballages.
L'intérêt pour le bio a évidemment cru récemment suite à la polémique autour de la présence de viande de cheval dans ce que l'on sait, notamment les lasagnes, mais aussi un peu partout. Alors par exemple, la viande biologique, qu'est-ce que c'est? Et surtout, combien ça coûte aujourd'hui en France?
Alors c'est vrai que à chaque fois qu'il y a des incidents, des scandales sur le terrain, ça nous met effectivement tout de suite un peu plus en lumière. On n'attend pas, et heureusement parce qu'on ne souhaite jamais le mal à personne, on n'attend pas ce genre d'accident, d'incident ou d'escroquerie pour pouvoir bien travailler. On est sur une lame de fond qui fait qu'on a une progression régulière et de temps en temps, c'est vrai qu'on bénéficie d'un intérêt supplémentaire parce que d'un seul coup, les gens sont un petit peu plus intéressés. Globalement, les systèmes, donc, sur produire de la viande, par exemple, en France, ça se fait en bio depuis pas mal d'années. ce n'est pas la production qui est la plus majoritaire, la bio étant plus sur globalement sur une alimentation végétale à plus de 65%. Il n'empêche qu'aujourd'hui, il y a des organisations de producteurs dans toutes les régions, sur toutes les espèces, et avec des techniques qui sont basées sur de l'élevage extensif, sur surtout une proximité entre l'aliment de ces animaux, ça c'est quelque chose de très important, le lien au sol. Les animaux sont nourris avec principalement les végétaux qui sont produits autour de chez eux, dans le respect d'une agriculture connue en France, enfin, une pratique de l'élevage, avec tout ce qu'elle comporte de qualité.
Claude Marie Vadreau, vous souhaitiez réagir.
Oui, d'abord il faut rappeler que le bio, tout ce que ce soit de la viande, des légumes ou des préparations, ce sont des produits qui sont contrôlés au minimum une fois par an. On ne peut pas en dire autre de la même chose des autres produits. Il n'y a pas de contrôle chez les épiciers, chez les fruitiers.
C'est-à-dire qu'on vérifie que
Le label est mérité. Et si jamais il y a une erreur ou une tentative de fraude, le label disparaît du produit. Et puis s'agissant du prix, ouais, c'est un peu plus cher le bio. Encore que quand on va sur les marchés en province, on s'aperçoit que les producteurs de bio, pour des raisons économiques évidentes, n'osent pas vendre leurs produits plus chers que les autres. Mais si vous mettez un aliment, légumes ou viande, dans une poêle et qui commence à fondre et à disparaître parce qu'il a été gonflé par des hormones ou une irrigation, vous perdez le bénéfice du prix. Par contre, si vous mettez un produit bio, une tomate ou une viande bio dans votre poêle, elle ne va pas fondre et disparaître. Donc, en définitive, vous n'aurez pas perdu votre argent et vous aurez gagné dans le goût. Et ça, c'est la satisfaction du goût. C'est quelque chose d'extraordinaire.
Justement, le goût. Le bio, est-ce beau, est-ce bon, Thomas Chauvineau? Vous êtes allé voir un professionnel, un cuisinier.
Oui, et on va voir que le jugement est beaucoup plus nuancé que celui de M. Vadreau. Je suis allé voir Vincent Ferniaud, qui a ouvert un restaurant où on ne vend que des plats qui sont des plats bio. Le restaurant s'appelle Boco. Et moi, je lui ai préparé un menu aux petits oignons, si je puis dire. Je vais préparer deux jus d'orange, deux carrés de chocolat et deux tranches de saumon fumé. À chaque fois, il y avait un produit issu de l'agriculture biologique et l'autre pas. Et donc, je lui ai demandé de goûter pour savoir si l'un était meilleur que l'autre.
Alors, voilà votre menu dégustation.
Merci. Je suis rarement servi à table. Hein.
Eh bien, écoutez, ah
bah oui, c'est gentil,
si je peux vous
Thomas,
aider
merci.
Autre chose, n'hésitez pas.
Alors, jus d'orange, déjà. C'est drôle, mais j'aurais tendance à dire que le bio, c'est celui-ci.
Déjà, one point.
One point. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il est, moins coloré. Et que parfois, les oranges d'agriculture conventionnelle ont parfois des traitements qui permettent peut-être de garder la couleur, de garder cette couleur orangée.
Mais alors, c'est pas au goût, mais à l'œil que vous l'avez reconnu.
Le goût est un peu différent. Ça, c'est vraiment le goût d'orange typique. L'autre a un côté légèrement plus exotique, presque un goût d'ananas, curieusement. Et ça m'a fait penser qu'il sortait un peu de la gamme du jus d'orange habituel. Voilà.
Ça fait longtemps que vous êtes dans la partie. Est-ce que vous n'avez pas la sensation que le bio est aujourd'hui un peu passé de mode, finalement?
On peut dire la même chose du traitement du sida. C'est-à-dire, dès qu'on n'en voit pas les effets quotidiennement, l'humain est fait de telle façon que, effectivement, les modes peuvent passer. Mais s'occuper de sa santé, c'est une lame de fond. Ce n'est pas une mode. Je crois que on doit revenir, de toute façon, parce que c'est possible, on doit revenir à une agriculture beaucoup plus saine et pas faire la fortune des grands groupes chimiques qui polluent la planète année après année. Bon, là, il vaut mieux pas que je le retourne, c'est ça. Il ne faut pas que je voie la marque.
Là, vous avez les carrés de chocolat dans la main, en effet.
Bon. Alors, je vais commencer par celui-là. J'aurais tendance, au goût, à dire que le bio, c'est le premier que j'ai goûté parce qu'il est plus parfumé. Alors j'espère que c'est le cas, mais sinon, tant pis. Non, apparemment non.
Non, hein. C'est pas le cas.
C'est pas le cas. Donc là, typiquement, le chocolat bio est moins bon que le chocolat d'agriculture conventionnelle. Moi, je peux l'expliquer. Le chocolat, c'est pas une matière première. Le chocolat, c'est issu d'un process. Et très longtemps, les bons faiseurs étaient dans l'industrie agroalimentaire. C'est pareil pour un camembert, par exemple. Hein, un camembert de lait bio, c'est pas parce qu'en général le lait est bio qu'il est moins goûteux, c'est parce que ceux qui savent faire du camembert ont travaillé pendant des dizaines d'années dans le conventionnel et qu'ils ont eu du mal, ceux qui ont voulu faire des camemberts bio ou du chocolat bio, à trouver les bons faiseurs et à les payer le même prix que l'agroalimentaire. Donc quand c'est une matière première, un fruit par exemple, c'est beaucoup plus parlant. Dès qu'il y a un process de fabrication, dès qu'il y a une transformation, là, le bio a des points à rendre en général. Bon, le saumon, je vais me rincer avec, avec le jus d'orange bio, hein, du coup.
Voilà, et donc à suivre, comme on dit dans le métier, deux tranches de saumon d'élevage, toutes les deux simplement. L'un a été nourri de manière biologique et l'autre pas.
Alors je vais commencer par celui-là. C'est correct, hein. c'est pas un mauvais saumon, quoi qu'il en soit, parce que mauvais saumon, on a toujours cette impression de papier mâché.
Non, j'ai pris de la bonne qualité quand même.
Oui, hein. Bah, c'est ce que je vois, hein. Vous n'êtes pas foutu de moi. Hein.
C'est ça, voilà. On se mouche pas du coude. Hein.
On sait vivre, c'est pas très loin.
Vous voulez dire qu'ils sont assez proches en termes de goût l'un comme l'autre.
Gustativement parlant, moi je dirais que c'est l'autre le bio, le plus clair des deux, pour une raison simple en fait. La chair du saumon, s'il se nourrit de harengs, si on le laisse dans la nature, c'est de l'élevage hein, dans les deux cas. Les deux. Si on le laissait dans la nature, il se nourrirait de des crustacés ou des poissons de son biotope. Et par exemple, en mer du Nord, au Danemark, on a du saumon qui est blanc. S'il est rose en Norvège, c'est parce qu'on y met des colorants, on y met du carotène dans les granulés qu'on leur donne. Donc j'aurais tendance à penser que c'est le plus clair des deux qui est bio, parce qu'on va mettre moins de carotène et de saloperie dans les granulés.
Voilà. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que ça ne sert pas à grand-chose, cette distinction entre bio et pas bio, en ce qui concerne le saumon, tout du moins.
Très honnêtement, à quoi sert le bio? Le bio sert à faire du bien à son corps et à faire du bien à la planète. Maintenant, au palais, c'est beaucoup moins déterminant.
Dans ce cas-là, pourquoi ne faire que du bio dans ce restaurant?
Parce que nous, on croit que c'est pas la peine de se pourrir la santé à l'insu de son plein gré.
Vous en voulez un peu ou ça va?
C'est-à-dire que si je pouvais me rouler un petit morceau de chocolat dans une tranche de saumon et le tremper dans le jus d'orange, là, bah, c'est le paradis. Hein.
Écoutez, faites, sinon je débarrasse.
Oui, bah, alors, débarrasser, mais pas si le plancher.
Monsieur,
hein.
Si monsieur a terminé, je débarrasse.
Vous êtes fort bon.
Voilà, sur le plateau de l'émission, tout le monde n'est pas d'accord avec les propos de Vincent Ferniaud, mais enfin, voilà au moins quelqu'un qui est dans la gastronomie et qui a le courage de dire donc le bio n'est pas forcément meilleur en termes de goût.
Claude-Marie Vadreau, vous signez bio, le vrai du faux, mais vous savez reconnaître le vrai du faux en matière de bio?
J'ai l'impression, quand ma femme achète par erreur des choses qui ne sont pas bio, je ne me nourris pas à 100% bio.
Elle fait des erreurs, vous n'avez qu'à faire les courses.
Je fais les courses d'ailleurs très souvent, mais je remarque qu'il y a une différence. Elle-même, qui est entrée en religion bio bien après moi, commence à le remarquer également. Mais il ne faut pas croire qu'on puisse se nourrir uniquement de bio. Il m'arrive de commettre des erreurs.
Franck Bardet, vous êtes responsable des filières animales chez Biocoop. Est-ce que vous reconnaissez la viande bio de la viande traditionnelle?
Si vous parlez de viande traditionnelle, donc si on parle de tradition, la reconnaître à l'œil nu, non, parce que la viande...
À l'œil nu, non, mais souvent on mange de la viande pour ceux qui acceptent d'en manger. Si je vous fais un steak acheté au supermarché ou acheté chez le boucher, nourri à ce que vous savez, et un steak bio, est-ce que vous réussissez à distinguer les deux?
Oui, alors quand on n'est pas du tout sur le même produit, quand je dis ça, c'est que il n'y a pas une viande, il y a des viandes, et notamment tout ça vient des différents systèmes d'élevage. Si vous prenez des animaux qui ont 4, 5, 6 ans, qui ont été élevés avec des rythmes hiver, printemps, une alimentation à l'herbe fraîche, une alimentation au foin en hiver, là vous arrivez à avoir quelque chose qui soit vraiment le summum de ce qu'on peut trouver au niveau de la viande. Et la différence qu'il va y avoir entre ce produit bio et ce produit conventionnel, c'est que dans le bio, vous n'allez pas retrouver de traces de pesticides ou d'antibiotiques.
Ça, évidemment.
Par contre, si on compare avec un animal de classiquement appelé élevage de batterie, poussé à l'extrême, avec une alimentation très riche, très concentrée, qui va faire que l'animal va pousser très vite, mais ne va pas avoir le temps de transformer tous ces aliments en une bonne matière viande, qui soit avec une fibre qui tienne la route, avec un taux de gras suffisamment fin à l'intérieur, ce persil et tout ça, là, oui, effectivement, il y a une grosse différence.
Vous sentirez
la différence. Et ça, ça se voit à l'œil nu. À l'œil nu, ça se voit.
Gilles Rivière, vous faites la grimace, vous.
Oui, parce qu'il faudrait peut-être arrêter de mettre d'un côté, il y a le bio, et de l'autre côté, il y a le conventionnel. Quoi. Il y a des bio, du bon et du mauvais, du bon et du mauvais. Et il y a du conventionnel, du bon, du très bon et du très mauvais. Et donc voilà, après ça dépend de ce qu'on compare, mais il est évident que la manière dont les choses ont été soit cultivées, soit élevées, joue sur la qualité nutritionnelle et sur la qualité gustative. C'est une évidence. Mais ce n'est pas dans le cahier de charge du bio d'avoir une qualité gustative. Ce n'est pas dans le cahier de charge du bio d'avoir une qualité gustative, je le répète.
On continue à distinguer le beau bio de l'autre après Indochine Memoria. Indochine, c'est beau, mais le bio, est-ce beau? C'est la question qu'on se pose dans ce service public sur France Inter en compagnie de Claude-Marie Vadreau, journaliste à Politis qui publie Le bio, le vrai du faux chez Delachaux et Niestlé, Gilles Rivière qui publie Bio, fausse promesse et vrai marketing et co-auteur avec Marc Dufumier et Thierry Doré de l'agriculture biologique Espoir ou Chimère et Franck Bardet, responsable des filières animales chez Biocoop. Et nous avons une auditrice au standard. Bonjour.
Notre bonjour.
Auditrice nous entend-elle? Oui, Valéria, bonjour.
Oui, bonjour.
Nous vous
monsieur.
Écoutons, vous êtes en direct sur l'antenne de France Inter.
Voilà ma question. Peut-on se fier aux produits bio vendus en grande surface et notamment sous les marques distributeurs et même s'ils sont labellisés AB?
Merci beaucoup, voilà. Valéria, pour cette question qui s'adresse à Claude-Marie Vadreau.
Alors, sur leur côté effectivement bio et débarrassé de produits chimiques, oui, on peut leur faire confiance, mais non en ce qui concerne leur qualité gustative, parce que ce sont des productions de bio intensifs dont on ne sait pas d'où elles viennent. C'est effectivement vendu sous des marques génériques. On a l'impression qu'il y a une grande ferme bio en France, soit pour Leclerc, soit pour d'autres, qui produit à la fois du vin, des légumes, des fromages et des cerises. Donc c'est là que est le problème.
Alors le bio intensif, effectivement, on le découvre dans votre livre, c'est un secteur qui se développe. Ça semble quand même très paradoxal, Claude-Marie Vadreau.
Mais vous savez, il suffit par exemple de cultiver des fraises en les irriguant énormément, des nectarines en leur mettant beaucoup d'eau. Et
mais
alors, vous avez
dans
vous
ces
avez
conditions,
un fruit,
comment ça peut encore être bio?
Mais l'eau.
Oui,
ça
mais
n'est pas...
ça utilise une ressource qui est, on
c'est,
le sait.
C'est normal. C'est normal, on peut utiliser. Oh, rien dans le cahier des charges n'interdit de mettre beaucoup d'eau dans son champ ou dans son verger.
Rien ne l'interdit, mais sur le plan de l'éthique ou de la morale, Gilles Rivière.
Écoutez, le plus grand producteur de blé bio en Allemagne, vous savez quelle est sa surface? 30 000 hectares. Donc 15 000 en biocarburant et 15 000 en céréales bio. 30 000 hectares. 30 000 hectares. Donc voilà, on est dans du quoi? On est dans du très, 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 très grand, avec un marché d'exportation énorme vis-à-vis des pays du Moyen-Orient. Toujours en Allemagne, les producteurs maraîchers, il y a un producteur maraîcher qui a 800 hectares. 800 hectares de produits maraîchers. Donc, bien sûr, et ce sont ces gens-là qui alimentent les grandes surfaces, ce sont ces gens-là qui font, bien entendu, la guerre aux petits producteurs bio. Donc, quand quelqu'un va acheter sa salade bio dans le supermarché et qui pense faire un geste pour la petite agriculteur bio, mais il y a 9 chances sur 10 qu'il se trompe.
Franck Bardet pour Biocoop. Alors justement, est-ce que ça n'est pas paradoxal au fur et à mesure que de plus en plus de gens mangent bio, et on peut peut-être s'en féliciter, eh bien nécessairement on va voir poindre des industries agroalimentaires biologiques avec des cultures intensives en matière biologique.
C'est toute la difficulté des règles, hein, c'est qu'à un moment donné, elles peuvent être assouplies. Aujourd'hui, on est sur un régime européen, donc ça veut dire qu'on discute des règles à 27. Si je peux rajouter dans la liste de ce qui vient de citer des productions, la zone d'Almeria au sud d'Espagne, couverte de serres chauffées en fertes irrigation.
Et donc là aussi, on a affaire à du bio.
Et oui, c'est du bio, c'est qualifié de bio, c'est contrôlé selon les règles du cahier des charges qui, sur certains points, a vu dériver des niveaux de ligne qui, quand les gens sont à vouloir faire du profit, regardent les lignes et se placent juste au niveau de cette ligne en disant on est encore dans la règle. Ça, c'est toute la problématique que l'on a pointée notamment à plusieurs organisations en France en 2007, à l'approche du nouveau règlement qui a vu le jour en 2009, qui donc régit aujourd'hui l'agriculture bio européenne à 27, et où on a dit que c'était pas logique de laisser s'embarquer vers des choses comme ça, qui ne maîtrisaient pas notamment les systèmes de production, fertirrigation par exemple, la possibilité d'avoir des unités de production qui soient très très importantes, mais comme ça a été dit tout à l'heure, le règlement bio est un règlement de production. Il n'intervient pas sur l'économique ni sur le social. Donc
Thomas
là, c'est de la responsabilité après des opérateurs de savoir vers quoi ils veulent aller. Et encore une fois, la problématique de l'origine, si on dit réellement qu'on a du blé qui vient de cet endroit-là à des consommateurs ici en France, peut-être que leur réaction va être un petit peu différente. Donc il y a un besoin de transparence énorme.
Effectivement, Thomas Chauvineau.
En même temps, et quitte à me faire l'avocat du diable, si on part du principe que le bio c'est bon pour la planète, est-ce qu'on ne peut pas aussi accepter le fait qu'il y ait des grosses surfaces de blé bio cultivées, Claude-Marie Vadreau?
Oui, ça c'est un aspect qu'il ne faut pas négliger. Vous avez raison, je préfère du bio intensif pour la pollution et pour la planète que de l'agriculture intensive.
Non mais attendez, quand on fait des serres chauffées avec donc des énergies fossiles, est-ce qu'on peut encore dire qu'on a affaire à du bio, Claude-Marie Vadreau?
Je répondrai non. Dans ce cas, des serres chauffées.
Alors, mais dans ce cas-là, est-ce qu'il faut pas durcir le cahier des charges du bio, tout simplement à l'échelle européenne?
Bien sûr, on pourrait, mais je ne pense pas que les Polonais et les Espagnols soient vraiment d'accord là-dessus. Mais pour moi, le bio, c'est avant tout, et c'est comme ça que ça se passe, une agriculture de proximité, celle qu'il faut pratiquer à 10 ou 20 kilomètres de Paris pour alimenter les Parisiens, à 10 ou 20 kilomètres de Bordeaux pour les gens
alors
de Bordeaux.
Dans ce cas-là, il faut supprimer par exemple toutes les pâtes à tartiner qui contiennent aujourd'hui de l'huile de palme bio, mais quand même de l'huile de palme, Gilles des Rivières.
Oui, et puis il faut supprimer quasiment la moitié du marché du bio, parce que rappelez-vous cette affaire de concombre bio à Hambourg l'année dernière, tout le monde avait découvert qu'il venait d'Espagne. Le marché du bio est un marché qui est totalement mondialisé. Si vous voulez donc vous retirer ça, vous retirez la moitié du marché du bio. Et par contre, si vous favorisez le marché de proximité, il y a plein d'agriculteurs conventionnels qui font de la proximité et qui font d'ailleurs de la très très bonne qualité aussi. Donc là, je pense qu'on mélange les choses. Simplement, ce qui est intéressant, c'est que dans la philosophie d'origine du bio, celle effectivement des conservateurs, des réactionnaires, la notion de proximité, du local, était vraiment quelque chose de très fortement inclus. Ça veut dire que ce sont des gens qui s'opposaient à la mondialisation. Donc c'est pour ça qu'on retrouve cette idée de proximité, si vous voulez, contre la mondialisation qui est par définition mauvaise. Parce que comme vous l'avez dit correctement, si un produit bio est meilleur que produit conventionnel, qu'il soit produit en Ukraine ou qu'il soit produit en Chine ou en Amérique latine, si c'est meilleur pour la santé, tant mieux. Mieux vaut ça qu'un produit local produit par un petit producteur français conventionnel qui fait pas bien son métier. Donc là, on voit que tout ça, c'est très paradoxal. On mélange plein de choses et personne ne sait vraiment quoi, parce que l'agriculture biologique, il y a beaucoup d'agendas, beaucoup de paramètres qui jouent et beaucoup de gens qui ont leur propre vision de ce qu'ils veulent faire de l'agriculture biologique. Des gens veulent faire un projet politique. Il y a un projet politique derrière l'agriculture biologique. Et puis, il y a des gens qui veulent faire du commerce avec l'agriculture biologique. Donc tout ça, c'est aujourd'hui, il y a une tension très forte et le consommateur, bien entendu, ils ne s'y retrouvent pas là-dedans, ce qui est tout à fait normal. Donc, vous avez les convaincus qui restent sur le marché du bio, et puis les autres désertent, comme on le voit en Angleterre. Le marché du bio diminue aujourd'hui. Ça fait la deuxième année consécutive que le marché du bio diminue.
C'est peut-être lié aussi à la crise, malgré tout.
Bien sûr, c'est lié à la crise. Mais bon, visiblement, les gens préfèrent gagner de l'argent ou économiser de l'argent que leur santé, visiblement, à ce moment-là. Donc, on voit que les gens sont pas vraiment convaincus.
Quand ils ont la possibilité de faire cet arbitrage. Hélène, au Standard, nous dit, le prix du bio n'est-il pas aussi lié aux subventions? Le conventionnel est très subventionné. Le bio, les moins ou pas? Exact, Claude-Marie Vadreau.
Bien sûr, si la PAC était organisée autrement, si on avait réussi à faire passer ces idées-là dans les dernières...
La politique agricole commune.
Si on avait réussi à faire passer ces idées-là, eh bien, dans les 7 ans qui viennent, l'agriculture bio, l'élevage bio auraient été beaucoup plus aidés. Alors qu'actuellement, c'est la betterave de l'Île-de-France qui reçoit les subventions. Mais le bio, je crois... C'est quelque chose qui est passé de mode parce qu'il est entré dans la mode et dans nos comportements.
Soyons clairs. Par exemple, quand vous prenez les fruits et légumes, il n'y a pas de subvention pour les fruits et légumes de Bruxelles qui soient bio ou conventionnels. En revanche, quand vous faites des céréales, qui soient bio ou conventionnelles, vous avez des subventions. Il n'y a pas de différence, si vous voulez. On n'a pas plus de subventions qu'on est bio ou moins de subventions, puisque c'est par rapport à des DPU, c'est par rapport à des historiques de ce qu'on avait déjà avant.
Ce sont les
subventions qu'on avait, si vous voulez, avant et qui ont fait un historique qui donne aujourd'hui des subventions à l'hectare, etc.
Oui, ça dépend largement de la taille de l'exploitation aussi.
Oui, bah, vous avez plus de subventions si vous avez une plus grande surface. C'est pour ça que, par exemple, la personne qui fait 15 000 hectares de bio en Allemagne, il a obtenu, je pense, aux alentours de 4 à 5 millions d'euros de subventions.
Donc, dans ce cas-là, ce sont des subventions. Claude, Marie Vadreau, à l'avenir, est-ce qu'on peut imaginer une réconciliation de la notion de bio et de développement durable? Puisque finalement, au fur et à mesure que le bio va se développer, peut-être qu'il pourrait devenir de plus en plus éloigné de son esprit initial.
Je crois que c'est le contraire qui se passera. Je pense que le bio va se développer, qu'il va gagner des parts de marché dans l'esprit des consommateurs.
Du temps de cerveau disponible.
Et qu'il va voir ses coûts diminuer et qu'on va peu à peu vers une progression. Écoutez, en Autriche, ils en sont à 18% de la surface agricole utile. En Espagne, ils réussissent mieux que nous. Donc, il y a de l'espoir pour que le bio couvre le monde entier.
Gilles Rivière, un mot de conclusion.
En Autriche, 18%, oui, mais c'est parce que ce sont des zones de montagne, donc ils ont converti des zones de montagne, si vous voulez. C'est pas, la plupart du bio qu'ils mangent eux-mêmes, si vous voulez, ils l'importent. Donc voilà, ce sont des faux chiffres.
Mais enfin, l'agriculture de montagne nous est chère malgré tout. Elle peut apporter de beaux produits et des produits bio. Merci messieurs d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle le titre de vos ouvrages. Gilles Rivière, bio, fausses promesses et vrai marketing aux publieurs et agriculture biologique, espoir ou chimère au Muscadier. Claude-Marie Vatoro, bio, le vrai du faux.